si tu prends la vague comme un surfeur au bon moment, et bien là, tu vas t'élever tellement haut, en fait, que tu vas te rapprocher de lui direct et il va te dire, voilà, c'est ça le chemin droit. Parce que l'épreuve, c'est ça, c'est pour te remettre là où il faut. Et moi, ça a été hyper violent, vraiment. C'est comme, je sais pas si tu as déjà vu des images de BD quand tu étais petite où il y avait un chemin A et un chemin B. Le chemin A, il paraît un peu sombre, il y a des feuillages partout, il va falloir débroussailler, il va falloir grimper un peu, c'est une pente. Puis à droite, tu as un chemin magnifique, il y a des fleurs partout, ça a l'air hyper facile d'y aller, il y a les oiseaux qui chantent, il y a plein d'animaux féeriques. Et du coup, ben toi, qu'est-ce que tu choisis? Ben forcément, le chemin féerique, il te tente beaucoup plus. Mais quand il va, au moment où tu rentres, tu mets le pied à l'intérieur, ben tout fane. Les animaux se transforment en des espèces de bêtes qui te font peur. Les fleurs fanent, le sol devient glissant, boueux. Tu t'engouffres là-dedans et tu as peur, tu as froid. Voilà, c'est vraiment ce ressenti quand on est de l'autre côté. Pour donner une image à ceux qui aimeraient s'en faire une de la tentation, qui paraît si belle et si brillante, si chaleureuse, et au final, non.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Vous êtes-vous déjà demandé, que serait ma vie sans l'islam? Est-ce que j'aurais été plus heureuse? Y a-t-il d'autres alternatives religieuses? Ces questions, Latifa ne se les pose pas puisqu'elle est déjà passée par là. En quête d'amour, elle a arpenté de nombreux chemins jusqu'à trouver le sien, celui qui mène vers le divin. En retraçant son passé à coups de métaphores très bien pensées, elle nous donne beaucoup à méditer, notamment sur ce que nous apporte l'islam dans notre vie et le danger que l'on s'attire lorsqu'Allah n'en fait pas partie. Sur ces nouvelles croyances très tendances qui sont si douces d'apparence que dangereuses en conséquence, et enfin sur la beauté de l'amour en Allah, le plus beau qui soit. Cet épisode évoque les doutes qui nous arrivent de traverser, les tempêtes qui menacent de tout faire vaciller, et la lumière qui, elle, n'avait jamais cessé de nous guider. Cet épisode, c'est plus qu'un échange, c'est une ode à l'amour avec un grand A. A pour Allah. Je remercie chaleureusement Latifa de s'être ainsi livrée, elle et son petit bébé, qui vous l'entendrez, avait aussi très envie de s'exprimer. Sans plus tarder, je laisse place à mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute.
Salam alaikum Latifa, comment tu vas?
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça va et toi?
Je vais très très bien, je vais bien et je suis très heureuse qu'on ait pu organiser notre petite conversation du jour. Et en plus, c'est une conversation qui a été assez spontanée, qui nous a semblé, je pense, naturelle pour toi comme pour moi. Donc, alhamdoulilah qu'on ait pu justement le concrétiser aujourd'hui, ce matin. Pour expliquer un petit peu aux personnes qui nous écoutent, je vais donner un peu de contexte. Latifa, toi, tu m'as envoyé un très bel email à la suite d'un épisode du podcast que tu avais écouté. Et dans cet email, tu m'as partagé ton rapport à l'amour, la quête que tu en as eue, les difficultés que tu as pu traverser. Et puis justement, cette trouvaille. Tu as trouvé l'amour avec un grand A puisqu'il s'agit de l'amour d'Allah. Et je me dis que il n'y a pas meilleur endroit pour parler de cet amour-là que dans le Halal Love Podcast. Donc, bienvenue à toi, Latifa.
Jazakallahu khairan, merci de ton accueil. Alhamdulillah pour cette rencontre et ce podcast.
Ben écoute, Latifa, ma première question, celle qui m'intrigue presque depuis qu'on s'est parlé pour la première fois, c'est que l'une des premières choses que tu as indiquées dans ton message, c'est que tu as dit que tu t'es cherché très longtemps, que tu cherchais quelque chose. Alors, j'ai deux questions du coup. Enfin, déjà, voilà, après quoi tu courais, Latifa? C'est ça, déjà, on va commencer par cette première question. Après quoi tu courais, Latifa?
Ce que je cherchais vraiment, c'était la vérité, en fait. Tout simplement. En fait, je cherchais à quoi je servais, à pourquoi je suis sur Terre, quel est mon but ici, qu'est-ce que je dois faire, en fait, tout simplement. Je ne comprenais pas ce que je devais faire. J'errais comme une âme en peine, comme ça, mais depuis petite, hein, en fait.
Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que c'est quand même, on est sur des questions très philosophiques, quand même. À quoi je sers, c'est quoi mon but, pourquoi je suis là? C'est des questions qui sont hyper profondes. Et toi, tu les as ressenties dès le plus jeune âge?
Oui. Pour te donner le contexte, mon père est décédé, j'avais 8 ans. Et du coup, j'ai grandi très vite. J'étais déjà très autonome avant parce que mes parents avaient un commerce. Donc, forcément, tes parents, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper de toi. Donc, tu deviens très vite autonome. Et du coup, j'avais cette autonomie de pensée aussi. Je partais très vite dans mes pensées, dans mon monde imaginaire. Et quand mon père est parti, ça a fait comme... ça s'est arrêté d'un coup. Et je suis passée de ce monde imaginaire à un monde un peu plus adulte, on va dire. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Les questions qu'on se pose pas à 8 ans, forcément, mais en même temps, c'est l'âge du discernement. Donc, j'étais prête à me les poser aussi. Mmh. Et j'ai grandi d'un coup. Et là, c'est là que j'ai commencé à être perdue, en fait.
Parce que cette perte, elle a été subite. Tu l'as pas à venir. D'accord.
Ah non, c'était, voilà. C'était très, très subite pour moi. Et pour tout le monde, d'ailleurs. Et ouais, après, ça a commencé les questionnements et la paix. Enfin voilà, c'était vraiment de la... J'étais perdue, quoi. Et j'étais perdue longtemps, longtemps, longtemps. Et quand t'es perdue, tu fais forcément des choses de gens perdus.
Oui.
Je peux résumer ainsi.
Bah oui, bah c'est très bien résumé, je pense. En tout cas, c'est. Ça fait sens, tu vois, quand tu le dis. Si on revient sur justement ce sentiment-là, bah justement d'être perdue. J'ai l'impression que c'est aussi lié au fait d'avoir un manque, en fait. T'es perdu parce qu'il te manque quelque chose. Et ma question, c'est, en fait, à quoi ça ressemble, ce manque-là? Je te pose la question de manière très candide parce que, bah, moi, je suis née dans une famille de confession musulmane. Donc, en fait, la pratique de la religion n'a pas été un sujet. Et donc, je pense profondément que parfois, en tant que personne qui vivons dans une famille musulmane, il y a vraiment des réalités qu'on n'a pas, en fait. Et il y a des... Je pense que ce genre de conversation qu'on a, toi et moi, ça pourrait permettre à des personnes comme moi d'avoir plus de visibilité sur ce que c'est que le vrai manque et d'avoir aussi un peu plus de gratitude quant au fait qu'on n'a pas manqué de ça. Donc, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu peux nous dire, c'était quoi ton manque? En tout cas, à l'époque, quand tu avais 8-10 ans, qu'est-ce qui te manquait concrètement? Qu'est-ce que tu n'avais pas qu'un musulman ou qu'un enfant qui est dans une famille musulmane peut avoir?
De l'amour. En fait, je pensais que c'était dû à la perte de mon père. Pour moi, c'était la seule réponse que j'avais. Mon père est plus là, il me manque. Bon, c'était vrai, il me manquait, hein, parce que voilà, c'était lui la source de mon amour depuis que j'étais petite. Et en fait, je pensais que c'était en lui que toutes les réponses étaient. Mais au final, c'était beaucoup plus grand que ça. Mais à mon âge, j'avais pas les réponses. Donc, mais c'était de l'amour que je manquais. C'était un vide immense à l'intérieur de moi et l'amour.
Pour en revenir sur ta quête, sur ton cheminement, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que ça a concrètement commencé? Quand est-ce, parce que tu as commencé à te poser des questions en te disant bah je sers à quoi, c'est quoi la vie, c'est quoi? Alors déjà, peut-être la première question, est-ce que tu as trouvé des réponses? Et puis comment tu as fait? Est-ce que ta quête en fait, c'était justement une réponse pour pouvoir trouver des réponses?
Ouais, oui, ça, en fait ça s'est fait par étapes. C'était pas d'un coup. Et au final, moi, je me suis dit, la réponse, elle est dans le voyage. C'est le premier truc que je me suis... Ou là, vraiment, la première étape où j'ai vraiment fait un grand pas vers quelque chose, en fait. Et ça, enfin, j'étais déjà beaucoup plus grande. J'avais 22 ans. Et je suis partie pendant un an en Nouvelle-Zélande. Donc, beaucoup de jeunes le faisaient à cette époque-là.
Oui, c'est vrai. C'était un VU, ouais. Quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça. Et avec en mode avec le van, tu vois, van life.
Le fameux, ok.
C'est ça, on a fait du woofing aussi, enfin voilà. Mm-hmm. C'était très tendance à ce moment-là.
C'est vrai.
C'était plus la tendance australienne et du coup, nous, on a dit, bon, on fait Nouvelle-Zélande.
C'est un peu plus original.
Oui, puis c'est un peu plus vert, moi, je préfère.
Ouais, d'accord, ça te parlait plus. Hein.
Oui, c'est ça. Et puis les grands espaces où il y avait plus de moutons que d'habitants. Enfin, je m'étais dit, je vais me retrouver là-bas.
Ok.
Et sauf qu'il aurait fallu que je parte toute seule, je pense, pour que vraiment ça fonctionne. Là, tout ce que
D'accord.
ça a fait, c'est, enfin, tout ce que ça a fait, c'est me rendre compte que j'étais plus perdue que ce que je pensais. Ouais, vraiment.
C'est vrai?
C'est
Ça s'est manifesté comment, du coup, ce constat? Parce que pour le coup, effectivement, tu sais, il y a beaucoup de livres, va, vis, deviens, c'est quoi, je crois, mange, prie, aime, ou le retour vers soi-même, ça passe par un voyage initiatique, etc. Tu as beaucoup d'œuvres qui sont là-dedans. Et donc, c'est presque à contre-courant ce que tu es en train de dire, en fait, de dire que je suis partie et ça m'a encore plus perdue. Tu peux nous expliquer pourquoi?
Parce que le fait de me retrouver loin de mes proches et tout ça, je pouvais plus mettre la faute sur quelqu'un. Et donc c'est là que je me suis rendu compte à quel point j'étais malade dans mon cœur. Et du coup, la personne avec qui je suis partie, elle a pris pour son grade. Donc voilà, tu t'en prends qu'à la seule personne qui est avec toi, tu t'en prends à elle forcément. Si t'es tout seul, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Mais quand tu as quelqu'un à côté de toi, le réflexe quand tu es malade, c'est de t'en prendre aux autres. Et donc tout ce que ça a fait, c'est que cette personne était malade aussi. Donc en fait, on s'est renvoyé une pierre, on s'est tapé avec notre pierre comme ça, et on se faisait encore plus mal. Et en fait, on est rentré avec une vision différente de la vie, parce que là-bas, ils sont, il y a encore des, comment dire, des influences maoris. Il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. Donc ils sont vachement sur l'entraide, la communauté. Donc ce qu'on n'a pas du tout en Occident avec une société très individualiste. Et avec cet effet de communauté, j'ai appris quelque chose. Je me suis dit, en fait, quand on était là-bas, c'est comme si on était des loups au pays des moutons. Donc, eux, c'était des moutons, ils étaient gentils, ils étaient dociles, tout ça. Et nous, on arrivait, on était un peu les loups d'Occident qui peuvent piller en profitant de leur naïveté, profiter d'eux et tout ça. Enfin, voilà,
C'est la
avec.
perception que eux avaient, ou toi, t'avais aussi l'impression d'être un loup quand tu voyais leur candeur et leur solidarité?
Dans les deux sens, parce que, enfin, on a eu du mal à avoir notre premier woofing, par exemple, parce que les gens ne savaient pas s'ils pouvaient nous faire confiance. En même temps, t'invites des inconnus qui viennent de l'autre bout de la planète, je comprends.
Ouais. Alors juste pour les gens qui savent pas ce que c'est que du woofing, c'est que tu loges chez l'habitant et en échange de quoi, toi, tu donnes un peu tes bras pour, je sais pas moi, cultiver des champs ou des choses comme ça, c'est ça?
Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Il y avait aussi non. Pour te dire, j'ai désinsectisé une maison qui était infestée de cafards. Alors, rien à voir
Oh,
avec le champ.
rien à
Et
voir,
après,
ouais, de celle
voilà,
des ambiances.
ouais, on a fait pas mal de choses, enfin, diverses et variées, quoi. Et du coup, les gens ont voulu un témoignage de quelqu'un de notre famille pour nous faire confiance. C'est comme ça qu'on a eu le premier. Et puis après, t'as des avis et petit à petit, tu montes comme ça. Mais après, on savait qu'ils avaient une mauvaise image des Français qui venaient, une image très, voilà,
Ça vient
conquérant, quoi.
même c'est fou, même le français au 21e siècle, il arrive toujours, pardon, mais avec son énergie de colon, quoi. Genre, je
Mais
t'apprends la vie, quoi. C'est ça, on est d'accord. OK.
je pense que ça vient de l'époque des colons parce que les Maoris ont été complètement, comme beaucoup de pays, je pense que voilà, on peut donner plein d'exemples, même avec les pays du Maghreb et autres. Mais voilà, les colons sont arrivés, les Français sont arrivés en premier et ils ont voulu imposer leur langue, imposer tout ça, leur culture, leur religion. Et sauf que les Français sont repartis et c'est les Anglais qui ont eu mainmise sur le pays. Mais c'est quand même des colons, quoi.
D'accord.
Et donc les pauvres Maoris, en fait, ils ont été, ils sont vraiment des minorités. On dirait qu'ils se cachent presque. Et ça fait de la peine, hein, mais du coup, on est vu comme ça, même par les habitants du pays.
D'accord.
Parce que du coup, ils se sont un peu newzélandisés, on va dire.
D'accord. Ok.
Ils ont pris la mentalité un peu, voilà, paix, amour, comme tu disais.
Oui.
Et du coup, voilà, ils nous voyaient comme ça. Et moi, je me voyais comme ça. Et quand je suis rentrée en France, j'avais l'impression d'être devenue un mouton, mais très fragile, vulnérable, et d'être revenue au pays des loups. Et c'est là que, en fait, je me suis pris des claques énormes et ça a commencé ma transformation, en fait.
C'est des très 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 grandes leçons que tu nous partages là. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un peu plus sur le comment a continué ton cheminement? Parce que du coup, tu es parti à l'étranger pensant trouver une réponse. J'ai deux questions. Tu as dit on était tous les deux malades, la personne avec qui je suis partie et moi. Ce que tu appelles malade, c'est une maladie du cœur, c'est une maladie de l'esprit? Et encore une fois, est-ce que tu relis ça à un manque de religiosité?
Oui, c'est une maladie complète du cœur. Pour moi, ton cœur, quand il n'y a pas Allah, en fait, tu reflètes pas sa lumière. Et donc, ton cœur, il est rempli de tâches de diverses et variées. Ça peut être la jalousie, la tristesse, toutes ces émotions, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances que l'humain peut s'affliger à lui-même, d'être envieux, tout ça, c'est rempli de toutes ces émotions qui te rendent malade, en fait. Et c'est, pour moi, c'est ça qui entraîne les cancers, par exemple. Tu vois. Et t'as ces maladies, et au final, on est tous un peu dépressifs quand on est perdu comme ça. Et du coup, en rentrant en France, ben moi, je me suis dit non, c'est fini en fait, je veux plus être comme ça. Mais après, ça, je savais pas à quoi dans quoi je me lançais, et à quel point le chemin allait être long, quoi.
Ouais, on t'avait pas prévenu, quoi. T'as pas reçu le mémo, comme on dit. Bah, je voudrais juste, avant qu'on poursuive, qu'on fasse un petit arrêt là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, quand tu nais dans une famille qui est de confession musulmane où tu pries potentiellement depuis que t'as 14, 15 ans, 16 ans, t'as pas forcément, t'es pas confronté à ces aux douleurs que tu racontes là, tu peux avoir des peines, hein. C'est-à-dire que c'est pas qu'on soit bien clair, c'est pas parce que tu es dans une famille musulmane que tu as une foi parfaite, que tu as une pratique qui est parfaite, loin s'en faut. Mais je pense quand même que en tant que je vais parler pour moi, mais je sais que je suis pas la seule parce que c'est des discussions que j'ai avec des amis. Je pense que quand tu nais dans une famille musulmane et que du coup tu as une pratique depuis un certain âge, tu es quand même préservé de certaines choses. Et le truc, c'est que t'es tellement préservé que t'en perds ta gratitude, parce que bah c'est normal. Et là, tu vois ce que tu dis là, je trouve que c'est très très important, parce que ça permet à des personnes comme moi qui nous écoutent de réaliser que on est extrêmement préservé, que l'amour d'Allah commence par ça aussi, par le fait d'être préservé. Parce que je fais une toute petite digression, mais je suis partie voir le documentaire de James Salem, James Mellani, et c'est le parcours initiatique que tu racontes aussi, hein. Enfin, c'est un parcours initiatique religieux. Et en fait, on en a discuté avec une amie à moi à la fin de la séance. Elle me disait, j'aurais aimé passer par quoi elle est passée, parce que derrière, elle a un amour qui est incroyable. Et moi, je disais, au vu des épreuves qu'elle a, vraiment, moi, ça va. Je crois que moi perso, je voudrais pas, en fait. Et je pense que tu peux retrouver... Tu peux avoir un amour aussi magnifique que des personnes qui sont converties, même si tu es dans une famille musulmane, mais je pense que ça passe par plus d'efforts. Et le premier des efforts, c'est réaliser à quel point, alhamdoulilah, Allah nous a préservés de certaines choses en naissant dans une famille musulmane.
Alhamdoulilah. Alhamdoulilah pour à tous les frères et sœurs qui sont préservés, qui restent auprès d'Allah.
Exactement.
Mais je pense que chacun a ses épreuves.
Merci.
C'est épreuve personnalisée, en fait. Allah, il a un plan détaillé pour chacun de nous et il est unique. Et même un musulman de naissance et un autre a des épreuves totalement différentes.
Exactement.
Et on peut quand on voit les épreuves des autres et qu'on a, nous, une épreuve à la base, on pense qu'elle est moins dure. Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un de très proche qui a sa belle-fille qui est un monstre avec elle. Et ça l'a fait souffrir énormément. Mais elle sait au fond d'elle que, par exemple, les gens qui meurent de faim, ils ont une épreuve beaucoup plus dure qu'elle. Mais quand elle a le nez dessus, eh bien, sa foi, elle baisse. Parce qu'elle peut pas faire autrement, en fait. Ça lui fend le cœur. Et pourtant, son cœur est pur, son cœur est blanc à cette femme, vraiment. Et alhamdoulilah. Mais pourtant, elle a cette épreuve qui la ronge. Et je pense qu'en fait, Allah... Et c'est... Alhamdoulilah, c'est toute sa puissance, subhanallah même. Et il sait... faire cette épreuve personnalisée qui va te toucher selon tes compétences, selon ta personnalité, et il va piquer là où ça fait le plus mal pour que si tu prends la vague comme un surfeur au bon moment, et bien là tu vas t'élever tellement haut en fait que tu vas te rapprocher de lui direct et il va te dire voilà, c'est ça le chemin droit. Exactement. Parce que l'épreuve c'est ça, c'est pour te remettre là où il faut.
Exactement.
Et moi ça a été hyper violent, vraiment, quand je dis voilà, il y a des choses qui sont violentes dans ma vie, et le moment où j'ai vraiment décidé de trouver la vérité et de m'ouvrir, d'ouvrir mon cœur, ça a été extrêmement violent. Et c'est là où j'ai le plus souffert, parce que avant d'arriver à cette vérité, je me suis encore autodétruite, comme je disais. C'était ça l'autodestruction, c'est ça que font la plupart des mécréants pour moi. Jusqu'à arriver à un point de non-retour, en fait, où je me suis dit, je ne peux plus me faire du mal comme ça. C'est fini, je veux plus. Et là, tu ouvres ton cœur entièrement. Et Allah, c'est là où il te met l'évidence devant les yeux et tu t'as envie de l'avoir, en fait, t'as envie de l'attraper, tu prends. Quand il dit dans le Coran, accrochez-vous à la hanse qu'Allah vous a attendu. Mais là, je me suis accrochée et depuis, en fait, c'est ça l'image de ceux qui retournent à l'islam. C'est qu'en fait, on s'attache et on veut pas tomber là où on était avant. On veut pas, on sait ce que c'était et on veut plus. On veut plus, ça fait trop mal. Et là, c'est mon cœur que j'ai nettoie du mieux que je peux qui parle. Non, il faut pas retourner là-bas. Et quand je vois certains musulmans de naissance qui ne se rendent pas compte de la chance, subhanallah, alhamdulillah, encore une fois, qu'ils ont d'être nés dans une famille musulmane et de pas avoir eu ces souffrances, et à côté de ça, ils se rapprochent de la falaise, ils sont au bord parfois. Et je me dis, mais non, restez pas aussi au bord, vous vous rendez pas compte où vous pouvez tomber, en fait. Et non, il faut pas y aller. Restez du bon côté, vous savez pas ce qu'il y a de l'autre côté, c'est pas bon pour vous.
Mais c'est exact, mais vraiment, je ne peux que te remercier vraiment, Barakallahu fiki Latifa, parce que tu vois, s'il y avait une chose qu'on avait besoin d'entendre, c'était ça. Tu vois, le fait d'être au bord de la falaise. Mais je pense qu'en fait, parfois, les personnes qui sont nées dans une famille musulmane, on joue avec ça, en fait. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la falaise. Donc, on se dit, ah, ça va, oh, je suis pas loin. Vraiment, Dieu me pardonne, hein. Mais je pense que c'est notre naf, c'est nous, hein, parce que c'est notre naf, il faut prendre nos responsabilités. Des fois, on est un peu aussi là-dessus, quoi, de se dire, comme on ne sait pas ce qu'il y a, bah, en fait, vraiment, t'es trop proche de l'interdit, en fait. Mais parce que, on n'a pas sombré comme ça. Et je te remercie profondément parce que, effectivement, c'est important qu'on puisse réaliser que, personne n'a envie de plonger là-bas, en fait. Vraiment, c'est un rappel que t'es en train de nous faire en nous disant, c'est pas parce que vous l'avez pas vécu. Enfin, en fait, croire en Allah, c'est aussi, croire en ce qu'il y a à côté de la falaise, même si tu n'y as pas goûté. C'est ça, la vraie croyance. C'est de dire, je sais pas ce qu'il y a, mais Allah, il m'a dit que c'était dangereux. Donc, je n'y vais pas. Donc, je n'y vais pas. Et je te remercie vraiment beaucoup parce que tu nous permets vraiment d'avoir un petit aperçu de la falaise. Ça donne pas très envie, mais on va y retourner. On va revenir un peu sur ton histoire. Mais déjà, ça nous permet de nous dire, alhamdoulilah. Et juste une dernière chose par rapport aux personnes qui sont converties et l'amour puissant qu'ils ont. Moi, je disais à une amie en même temps, excusez-moi, mais effectivement, vous avez vu ce qui était enfin, derrière la falaise, et c'est l'amour d'Allah aussi c'est Allah dans sa grande mansuétude qui vous donne cet amour que vous méritez amplement, en fait, parce que les épreuves que vous avez vécues, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Donc, à ce moment-là, vous préservez et préservez toute la communauté en général. On n'est vraiment pas là pour faire des scissions, converties, pas converties. Non. On est là pour retrouver justement, puiser dans les forces de chacun pour aller plus loin. C'est vraiment l'objet de notre discussion.
On est là, Oumma, tous différents, et en même temps, on est tous pareils, parce que ce qu'on veut, c'est Firdaus, Inch'Allah.
Ah, Amine. Bah, justement, pour revenir sur ton parcours à toi, comment t'as continué ta quête, en fait? Parce que tu disais que t'es partie dans l'espoir d'avoir des réponses. Un, t'as pas eu de réponse. Deux, de ce que tu dis, hein. Un, t'as pas eu de réponse. Et puis deux, quand t'es revenue, tu t'es sentie plus fragilisée. Donc, comment t'as continué ta quête? Est-ce que t'avais le courage de continuer ta quête, et comment ça s'est passé, en fait?
Oui. Alors, donc j'avais compris qu'il y avait une puissance au-dessus de nous qui nous dépassait. Donc, ça m'arrivait de faire des prières. C'était plus des vœux, en fait, mais ça ressemble un peu à des doigts, parce que c'était quelque chose que je répétais tout le temps. Je regardais le ciel et je répétais tout le temps la même chose.
Mais tu savais pas tu savais pas qui tu priais, pardon.
Non, je me disais que c'était à Dieu, mais pas le Dieu de ma grand-mère, tu vois. C'était ça, en fait. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais il y a plein de mes comportements, en fait, où j'avais des choses de l'islam, sans moi-même m'en rendre compte. Et après, à côté de ça, j'avais tellement de choses qui n'ont rien à voir avec l'islam que j'ai dû transformer. Mais ça fait partie du boulot.
Bien sûr.
Si Allah était un employeur, il faut bien qu'il nous donne du travail.
Exactement. Ah, et puis, on est très occupés, hein. Mais en fait, c'est pas tant, on n'est pas tant occupé par Allah, on est occupé par Shaitan qui veut lui. Enfin, le travail est facile. Oui. C'est Shaitan qui te rend le travail difficile, je trouve.
Oui, c'est ça. Et pourtant, il est. Si on a toutes les cartes qu'Allah nous a données, en vrai, il peut se rhabiller parce que. Oui. C'est juste ça qu'il faut qu'on se rappelle aussi.
Exactement.
Mais moi, à ce moment-là, Shaitan, il était omniprésent dans ma vie. Hein. Et même quand je regarde des photos de moi à l'époque, je le vois dans mes yeux.
C'est
très étrange, ouais.
D'accord. Subhanallah.
Et je vois qu'aujourd'hui, mon regard, quand je me regarde dans un miroir, je vois dans mes yeux une lumière différente que celle d'avant. Avant, je voyais que c'était le démon, en fait. C'était Shaitan. Et ça, c'est quelque chose, j'en ai jamais parlé avec d'autres personnes qui sont retournées à l'islam. Mais c'est vrai que dans le regard, et quand je me faisais du mal à moi-même, j'avais déjà conscience que mon regard, il devenait plus noir. Et ça fait très peur, hein. C'est en fait, on voit quand on se regarde dans les yeux dans le miroir et qu'on regarde vraiment, pas juste pour se dire ah ouais je suis beau gosse, quoi. Mais vraiment quand on se regarde, quand on est sincère avec nous, quelle image je reflète là, qu'est-ce qu'il y a dans mon âme, et qu'on se regarde vraiment, Mais on voit à quel point on est lumière ou on est noirceur. Et je la voyais, la noirceur. Et je suis arrivée, sans rentrer dans les détails sur comment j'ai pu me faire du mal émotionnellement ou dans mon cœur, il y a eu un moment où je me regardais dans les yeux, je voyais ma noirceur et j'ai réussi à apprécier ça.
Et c'est là que c'est très grave. Ah oui, ok. C'était juste
plus. On apprécie, on tombe très, très bas dans la noirceur, dans son cœur. Mais Shaitan, il arrive à te faire apprécier ça. Il est tellement... je ne sais pas comment expliquer. C'est la perversion, c'est ça.
Il a des ressources, quoi. Donc,
voilà, il a des ressources. Et tu te regardes et tu arrives à trouver, à te faire du mal et à faire du mal autour de toi. Tu arrives à trouver un plaisir. Voilà, c'est du plaisir. Et ça, en fait, ça commence à me ronger de l'intérieur. Mais c'est vraiment le terme ronger. Et pas que dans mon cœur. C'était même dans mes organes. J'ai fini avec 7 de tension à une période... je mangeais plus, je dormais plus. Enfin, ça te ronge vraiment tout. Et après ça, tu te dis bon, voilà, il me faut un projet de vie, il me faut quelque chose, il faut que je me range parce que comme tu sais pas comment combler ce vide. Donc moi, je me suis dit, je dois changer le monde à mon niveau. Il y a quelque chose à faire. Donc je suis partie dans cette quête de changer les choses via un projet professionnel. Donc j'ai repris mes études. Voilà, j'ai cru que ça allait m'aider, mais au final, tout ce que j'ai fait, oui, il y a eu des bonnes choses. Ça m'a fait cheminer jusque-là, c'est ce qu'il fallait que je fasse, c'était le chemin que je devais emprunter puisque c'est Allah qui l'avait prévu pour moi, subhanallah. Mais voilà, ça a été encore un enchaînement d'autodestruction.
Même quand tu avais repris le travail et même quand tu avais retrouvé un sens à ta vie à travers tes actions professionnelles, tu n'étais pas complètement comblée et l'autodestruction n'était pas finie, c'est ça que tu nous dis?
Non, parce qu'au final, quand tu enchaînes les passions pour combler le vide que tu as à l'intérieur, c'est pas bon. Personne ne peut dire je suis heureux quand tu as une passion sans laquelle tu peux vivre parce que sinon t'es pas bien. Et moi, il y a une passion, ça me suffisait pas. J'avais énormément de choses. Le sport à outrance, le travail, les relations, que ce soit amis ou la personne qui était dans ma vie à cette époque-là, il fallait que ce soit tout le temps très passionnel. C'était vraiment tout à l'excès pour combler ce vide et ça suffisait jamais. Et ça, c'est ça qui ronge aussi. Après l'autodestruction, en fait, tu te ronges à essayer de combler un vide avec multiples passions et ça te convient jamais. Mmh. Et il faut, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu peux plus, en fait, ça te fait trop de mal. Et Allah, il met ce qu'il faut sur ton chemin. Et si tu prends la hanse au moment où il te la donne,
Il se passe des belles choses.
Il se passe de belles choses. Et après, je dis pas que c'est facile de changer. Mais il faut prendre l'impulsion. Si tu as le moment de l'impulsion, c'est là où il faut tout changer. Parce que après, c'est plus dur. C'est plus dur de mettre en place de nouvelles choses.
Ouais, quand t'es dans le, justement, quand tu disais, quand t'as pris la vague au bon moment, c'est là, par contre, où il faut rien lâcher, il faut tenir debout. Parce qu'après, quand tu retombes, tu retombes potentiellement encore plus bas, quoi.
Oui. Et puis, c'est plus facile de se renforcer, justement, quand t'es en haut de cette vague. Parce que t'es éloigné en fait des autres et c'est de cette influence que peuvent avoir les autres sur toi et du coup il faut en profiter pour évoluer tant que t'es proche d'Allah quoi. Oui, voilà, c'est ça.
Licking your chickeny fingers while gazing into your coworker's eyes is not appropriate. Taking a bite of a Twister wrap while gazing into your coworker's eyes is totally appropriate. So be a good workmate and get yourself a KFC lunch meal deal from just $5.49. It's workplace appropriate. For when finger licking is not. Weekdays until 3 p.m. in store at participating restaurants only. See kfc.co.uk for full T's and C's.
Avant d'aller plus loin, Latifa, je voulais partager une aya. Donc une aya, on traduit ça en un verset en français, mais vraiment c'est une traduction qui rend pas justice à la puissance de ce que c'est qu'une aya. C'est un signe, un signe sécurisant. Donc je vais citer un signe du Coran. Notre magnifique livre qui reprend, enfin en tout cas qui permet, qui nous permettra, Inch'Allah, à tous, donc toi, moi et bien évidemment ceux qui nous écoutent, de méditer un peu sur ton propos et sur ton histoire jusqu'à présent. Donc c'est une aya de la sourate 22, je crois que c'est Al-Hajj, et donc c'est la aya 46, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que ne parcourt-il la terre pour acquérir des cœurs aptes à comprendre et des oreilles aptes à entendre? En vérité, ce ne sont pas les yeux qui se trouvent atteints de cécité, mais ce sont les cœurs qui battent dans les poitrines, qui s'aveuglent.
Ça m'a serré la poitrine rien que de l'entendre. Alors, T'imagines pas l'entendre si t'es en arabe, ça doit faire encore plus.
Exactement. Mon niveau de tajwid n'est pas assez satisfaisant pour que je puisse me permettre de le réciter comme ça en arabe, parce qu'encore une fois, c'est une traduction, c'est un essai de traduction de Mohamed Chiadmi pour ceux qui souhaitent se procurer cette traduction-là. Mais tu vois, je trouve que ça donne une lumière sur ce que t'as vécu, qui est assez intéressante. Qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, oui. Et au-delà de, comme tu dis, un signe, pour moi, une ayat, c'est aussi une preuve. Parce que, enfin, pour moi, ça a vraiment été des preuves, en fait, qui ont raffermi mon cœur. Parce que j'ai ouvert mon cœur, je me suis accrochée à cette anse. Et après, Allah, via ses mots, à travers son livre, a raffermi mon cœur dans l'islam. Et en fait, je suis devenue, j'entendais vraiment, je voyais vraiment à travers cette lumière. Parce que c'est comme, je sais pas si t'as déjà vu des images de BD quand t'étais petite, où il y avait un chemin A et un chemin B. Le chemin A, il paraît un peu sombre, il y a des feuillages partout, il va falloir débroussailler, il va falloir grimper un peu, c'est une pente. Puis à droite, t'as un chemin magnifique, il y a des fleurs partout, ça a l'air hyper facile d'y aller, il y a les oiseaux qui chantent, il y a plein d'animaux féeriques. Et du coup, ben toi, qu'est-ce que tu choisis ? Ben forcément, le chemin féerique, qui te tente beaucoup plus. Mais quand il va, au moment où tu rentres, tu mets le pied à l'intérieur, ben tout fane. Les animaux se transforment en des espèces de bêtes qui te font peur. Les fleurs fanent, le sol devient glissant, boueux. Tu t'engouffres là-dedans et tu as peur, tu as froid. C'est vraiment ce ressenti quand on est de l'autre côté. Pour donner une image à ceux qui aimeraient s'en faire une de la tentation qui paraît si belle et si brillante, si chaleureuse, et au final, non, c'est vraiment pas ça. Et il vaut mieux prendre le chemin qui est plus dur et qui est rempli d'épreuves, mais chaque épreuve, en fait, te donne une récompense tellement immense et qui va au-delà de nous, parce qu'on peut pas se rendre compte de ce qui nous attend après, Inch'Allah. Et rester sur ce chemin, c'est tout le seul conseil que je peux donner à mon humble niveau.
Subhanallah, tu offres une transition parfaite, parce que je savais pas vraiment, je vous partage tout. Je savais pas si j'allais aborder le sujet là, du coup, que je vais aborder, mais je sens ta métaphore comme une invitation à le faire, parce que je pense que c'est un sujet et c'est une menace, j'ose le dire, qui est réelle. En fait, Latifa, je voulais qu'on aborde la question des religions un peu New Age. Parce que tu vois, quand tu as parlé de ces métaphores, moi, j'étais en plein dedans, vraiment. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que les religions dites New Age, c'est des religions dites contemporaines, parce qu'elles sont un peu apparues à la fin, ou en tout cas en deuxième partie du XXe siècle, donc plutôt années 50, 60, 70. C'est des religions qui sont extrêmement focus sur le déploiement de l'humain et sur la capacité de l'humain à tout faire, mais bon, pas tout quand même, donc on le ressent dans un univers. C'est des religions qui prennent un peu de partout, c'est-à-dire que quand on se renseigne, il y a le pouvoir de l'intention, bonjour l'islam. Il y a la présence de Jésus dans certains de ces courants, bonjour le christianisme. Il y a aussi une inspiration des religions polythéistes, avec un rapport au yoga, un rapport à ce type de pratique. Et c'est vrai que les religions New Age, elles sont extrêmement plébiscitées par la population occidentale, et là je mets tout le monde dans la population occidentale, hein, musulmans, pas musulmans, etc., dans le sens où c'est des religions qui sont incarnées par des personnes très en paix, très alignées, très souriantes, vous sentez le ton de ma voix ? Très souriantes, très calmes, qui sont dans cet amour justement que tu disais rechercher, Latifa, et que nous-mêmes, parfois, en tant que musulmans, on peut rechercher, parce qu'il faut qu'on soit transparent aussi là-dessus. Le musulman, qui est dans une famille musulmane, il chemine aussi beaucoup et il peut se perdre dans ce cheminement-là. Ma question, c'est est-ce que tu as été attirée par cette voie-là, et qu'est-ce que tu y as trouvé ?
Subhanallah, là, tu m'as un peu coupé le... Je suis pleine d'émotions, parce que Allah, il nous emmène là où il veut nous amener. Et je t'ai même pas parlé de ça quand on s'est parlé au téléphone la première fois. Mais c'est exactement le piège dans lequel je suis tombée avant d'arriver en islam. Et je me suis fait tellement peur. J'ai jamais eu autant peur de ma vie parce que quand je parle des animaux qui se transforment en bêtes, qui te font peur, c'est du vécu. C'est des choses qui sont vraiment pas drôles à vivre. Et quand t'as pas de protecteur, quand t'as personne pour te sauver, tu es seul face à tout ça. Et même si tu en parles aux autres, on te prend pour un fou. Quand il se passe des choses étranges dans ta vie, et le New Age, c'est pactisé avec Shaitan. C'est vraiment ça, c'est un pacte. Si tu vends ton âme à Shaitan, et lui l'apprend à bras ouverts, il te prend dans ses bras et puis après il te jette dans la fournaise, sa fournaise, voilà. Et je suis tombée exactement dans ce qu'on appelle le New Age. Et c'est vraiment très attirant, attractif. C'est très marketing, bling bling, tout ce que tu veux. T'arrives là-dedans, voilà, le yoga, bien sûr, je pratiquais du yoga, tout ce qui est méditation, j'étais rentrée bien dedans, j'arrivais, voilà, sortir de son corps, j'étais arrivée à un niveau assez quand même de concentration assez élevé, et puis il y a eu le Reiki qui m'a appelée. Alors, le Reiki.
C'est quoi le Reiki? J'en entends parler, mais je sais pas du tout ce que c'est.
Alors, c'est le Reiki, c'est. Pour moi, tu as peut-être entendu parler de. C'est pas de l'ostéopathie, comment ça s'appelle? Je sais plus le mot. Enfin bref, on en a pas besoin, je pense. Mais en gros, tu utilises les énergies pour te soigner toi-même. Et moi, j'avais
C'est comme la sophrologie?
un... Oui, un petit peu. Et il y a un autre mot, mais je suis incapable de le retrouver. Je suis désolée. Ah
Le mommy
voilà.
brain.
Les auditrices, maman pourront comprendre.
Exactement.
Et du coup, en fait, moi, j'ai connu quelqu'un qui le pratiquait et c'est peut-être ça qui a commencé à me guider vers là et qui m'avait soignée par les énergies et par le corps. Et en fait, c'est en utilisant des parties, donc les mêmes points que pour le yoga, pour ceux qui connaissent les chakras, les fameux chakras, en partant du chakra sacré voilà, celui qui se retrouve au-dessus du crâne. Et en fait, on aurait une sorte d'énergie qui vient du Tout-Puissant parce qu'on sait qu'il y a un créateur quand on est New Age et quand on est dans le Reiki. Mais en fait, on utilise, Astaghfirullah pour tout ce que je vais dire là, Allah wa la quwwata illa billah. On utilise l'énergie puissante et divine pour la faire passer à travers nous et à travers nos chakras, donc du haut de notre tête jusqu'à notre chakra sacré qui se trouve en bas, jusqu'à nos pieds qui rentrent dans la terre. Et en fait, on arrive à faire circuler cette énergie à travers nous vers le sol. Et donc, cette personne m'avait un peu guérie de mes blessures grâce à ça. Et après, donc, par le Reiki, quand j'ai rencontré quelqu'un, pour moi, c'est des gourous en fait. Et on en retrouve beaucoup, même sur YouTube, il y a des chaînes YouTube. Spécialisée dans certains domaines, que ce soit la sophrologie, la méditation, l'hypnose, il y a même voilà l'autosuffisance au niveau des fermes autonomes, tout ça, voilà, il y a énormément de gens en fait qui guident les autres. Et en fait, ça paraît comme il y a des bonnes intentions hein, au premier abord, mais en fait, petit à petit, ils nous font intégrer une façon de voir les choses et ça peut mener vers ces courants. Et donc le Reiki, donc quand je l'ai pratiqué, je vais pas rentrer trop dans les détails non plus parce que ça peut être long. Mais en gros, j'avais comme un gourou qui m'a fait passer des étapes. Et par le biais du Reiki, en fait, elle nous apprend à nous soigner nous-mêmes et on invoque des anges, Astaghfirullah. Et donc, quand tu invoques ces anges qui sont en fait
Des
des
chayatines,
shayatines,
quoi.
quoi, oui, voilà, des
Oui.
djinns qui
Des
mécréants
djinns.
qui suivent Shaitan. Et du coup, en fait, si tu acceptes, quand tu fais ça, tu acceptes qu'ils viennent vers toi. Parce que nous, ce qui nous protège au quotidien, c'est tout. Nos prières, c'est quand on demande la protection auprès d'Allah, c'est toutes les petites choses qu'on fait. Allah, en fait, il nous a dit de faire ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple pour apprendre à nous protéger de tout ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, ils peuvent pas rentrer. Ils peuvent pas nous toucher. Ils peuvent rien nous faire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a des moments où j'ai encore peur, j'avoue. Et c'est pour montrer que je suis loin d'être parfaite. Il y a des moments où je peux avoir encore un petit peu peur. Et mon mari m'a dit, mais ils peuvent rien te faire. Tu fais tout. Et c'est là que je me sens, en fait, je me sens dans cette bulle de protection et je m'en rappelle que oui, en fait, Allah, il est autour de moi, il est partout et en fait, je suis avec Allah et je fais tout pour qu'il m'aime. Et même si je suis pas parfaite, on avance tous dans l'imperfection et le but, c'est d'avoir une bonne intention et de faire ce qu'il faut pour s'en rapprocher. Et voilà, mon mari, il me dit, ils peuvent rien contre toi. Tu t'as dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et rien que ça te protège d'eux. Mais quand on les a eus à côté de nous et que la nuit ils viennent nous voir et qu'on sent leur présence, et c'est vraiment des choses, ça fait des sueurs froides. C'est vraiment quand on laisse le pouvoir, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur nous quand on est musulman et qu'on est croyant, alhamdoulillah. Mais quand on ne l'est pas et qu'on les laisse entrer, ils sont capables de faire des choses et de nous faire peur. Et ça, cette peur, c'est la pire des sensations, cette peur omniprésente. On ne peut pas dormir, on se réveille en sueur parce qu'on sent des choses. On se réveille dans des positions étranges. Et je sais qu'il y a plein de fantasmes autour des djinns amoureux, des possessions. Ça, je m'en approche pas. Moi, je n'essaie pas trop de regarder parce que je sais qu'il ne faut pas jouer avec ça. Parce qu'à partir du moment où tu rentres dedans, tu laisses une toute petite ouverture à Shaitan. Et non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut fermer la fenêtre et jamais s'approcher pour tout. Même pour la musique. Moi, j'étais quelqu'un... Enfin, j'écoutais de la musique avant. Voilà, je savais pas.
Bienvenue dans ma vie.
Et aujourd'hui, je ne veux même pas entendre une note de musique. Enfin, le moindre chose. Même les sonneries téléphone, j'ai pas envie de les entendre, en fait. Parce que je me dis, c'est laisser une toute petite ouverture à Shaitan.
C'est une faille, en fait. Voilà, une faille. Oui. Et puis, lui, il a besoin que de ça, et en fait. Lui... Il n'a besoin... de ça.
Petit à petit, en fait, il arrive, c'est comme un serpent. Et puis hop, dès qu'il est assez proche, crac, il mord. Et là, une fois qu'il a mordu, en fait, ça va être très dur pour retourner vers Allah. Et oui, tu peux y arriver parce que tant qu'on se repent, on peut retourner vers Allah. Mais est-ce qu'on a envie de se faire mal comme ça? Est-ce qu'on a envie? Cette dunya, elle est déjà assez dure, c'est déjà une épreuve. On ne doit pas se faire du mal à nous-mêmes. Et ça, c'est le compagnon Omar, radiallahu anhu, qui le disait. Quand je prends une bonne décision, c'est grâce à Allah, alhamdoulilah. Et quand je prends une mauvaise décision, c'est de m'en fait. Je peux m'en prendre qu'à moi-même et je me suis fait du mal à moi-même. Essayons juste de plus nous faire du mal à nous-mêmes le plus possible.
Amine. Alors, franchement, je te remercie vraiment beaucoup pour ton témoignage parce que, encore une fois, quand t'as pas approché de ces religions-là, tu ne vois que le marketing. Tu sais, t'es justement, pour reprendre ta métaphore de la BD, t'es vraiment à la croisée des chemins, littéralement. Et en fait, pour moi, en tout cas, le chemin vers Allah, c'est un chemin où il y a des centaines de milliers de croisées de chemin, en fait. Donc, très régulièrement, tu as cette croisée de chemin qui revient, genre, t'es sûr tu veux pas aller là-bas? Vraiment, t'es sûr, hein? Et merci de nous faire réaliser que, non, vraiment, il vaut mieux pas aller là-bas parce qu'effectivement, derrière ce vernis, derrière cette paix factice, se cache une réalité qui est vraiment aux antipodes de ce qu'il présente.
C'est le monde de Shaitan. Et on n'a pas envie d'y aller.
Ah non, on n'a pas envie d'y aller, non.
C'est l'enfer sur Terre. Et le plus grand enfer sur Terre, c'est parce que moi, alhamdoulilah, j'avais peur et j'avais pas de satisfaction. Quand je te disais, quand on se regarde dans le miroir et qu'on éprouve du plaisir à voir cette noirceur, ça, je l'avais plus. Moi, je me faisais juste du mal à moi-même et Allah m'a sauvée, alhamdoulilah. Mais quand on arrive, ces gourous dont je te parle, et même les gens qui les suivent, ils éprouvent du plaisir à tout ce qu'ils font. Et ils se rendent même pas compte. Et c'est là que ton cœur, il est mort, en fait. C'est comme un champ. Moi, j'étais au stade où j'étais un champ, mais ma terre était encore riche. Il y avait encore des minéraux, il y avait encore de quoi planter des graines. Il y avait des graines qui étaient prêtes à germer et il n'y avait plus qu'à à mettre de l'eau pour arroser et faire fleurir. Mais à ce stade-là, quand tu éprouves du plaisir à être là-dedans et que tu es sûr au fond de ton cœur que tu es dans la bonne direction, ta terre, elle est plus fertile, en fait. Tu es en train de faire mourir ta terre et Allah, il mettra plus de minéraux, il mettra plus rien et il mettra plus d'eau et il va sceller ton cœur. Et il faut faire très, très attention de ne pas aller dans cette direction. Et c'est un rappel pour moi aussi, en fait. Et qu'Allah nous préserve à tous.
Amine. Amine, bien sûr, de toute façon, on est dans un partage où on n'est pas là pour juger des parcours de chacun. On est en train d'exprimer nos parcours et l'idée, c'est d'en ressortir des leçons pour tout le monde, nous les premières, alhamdoulilah. Bah, justement, du coup, à quel moment tu as compris que c'était pas la bonne voie et à quel moment, du coup, l'islam est arrivé dans ta vie comme une réponse à toutes ces questions, presque à la fin de ta quête, en fait?
Ben, c'est là que Allah, alhamdoulilah, a mis un homme sur mon chemin. Un homme que je pensais au départ, je sais pas, je savais pas. Mais je savais que c'était une période où j'avais écarté tout le monde de ma vie. Je parlais à très peu de monde. Ben, parce que le New Age, il t'amène à faire ça. Il t'amène à te faire... Il te fait croire qu'il faut que tu fasses le tri dans tes fréquentations parce qu'elles sont mauvaises, ce qui n'était pas faux. Mais il faut pas... La religion, Allah n'a jamais dit de s'écarter de tout le monde. Il a dit de rester avec les gens pieux, mais ça ne veut pas dire que tu dois éliminer tout le monde de ta vie et te retrouver complètement seul du jour au lendemain. L'humain a besoin.
C'est une belle nuance que voilà. t'apportes là. C'est une très très belle nuance que t'apportes.
L'humain est fait pour vivre en communauté. C'est ce que Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne aussi. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on est très individualisés et du coup, c'était encore plus facile que je me retrouve seule et que je m'isole. Et donc, Shaitan a très bien réussi. Et sauf qu'en fait, à ce moment-là, ben en fait, je me suis dit, quelle personne en fait n'était pas si mauvaise que ça dans mes fréquentations. Et il y avait cette personne que je ne connaissais pas depuis très longtemps, mais je sais pas. J'ai ressenti, c'est ce genre de moment où on sent qu'on doit faire quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi.
C'est vrai.
Comme le fait de t'envoyer un mail à ton podcast.
Par exemple.
Et du coup, je lui ai reparlé en toute innocence. Et je pensais avoir trouvé ma voie, moi je pensais être bien, sauf que, enfin voilà, il y avait ce côté où j'avais peur la nuit, je ne dormais pas, et qui s'intensifiait petit à petit. Et en lui parlant, il me posait juste des questions, et lui c'était de la curiosité, parce qu'il n'avait jamais connu quelqu'un de New Age. Et comme c'est quelqu'un qui est très curieux, et en tant que musulman, en fait, il sait qu'il doit accroître ses connaissances, et qu'il doit utiliser ce qu'il a appris dans le Coran pour l'adapter à la société d'aujourd'hui. C'est ça le travail du musulman, en fait. C'est de toujours renouveler son intention et renouveler sa connaissance pour rester à jour de ce qui se passe dans le monde et que Allah nous a déjà tout dit dans le Coran al-Karim. Il nous a tout dit, en fait. C'est juste qu'il faut à chaque fois l'adapter aux sociétés. Mais tout s'adapte à chaque fois parce que ça vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. J'ai pas d'autre mot, en fait, que c'est insaisissable. Là. Je peux pas en parler mieux que ça pour moi.
C'est très clair.
et du coup, lui, il était intrigué par moi. Et il savait que le New Age, c'était un sujet actuel. Et du coup, il me posait plein de questions. Sauf que forcément, quand il me posait des questions, mais moi, je m'intéressais à lui aussi. Et j'ai vu quelque chose chez lui, en fait, qui titillait mes chayatines.
C'est vrai?
Ouais, non, mais ça me bouger profondément et en fait les choses qui se passaient dans ma vie étranges et qui me faisaient peur se sont intensifiées d'un coup. Wow. Et aujourd'hui je comprends que c'est parce qu'en fait Shaitan avait peur de me perdre et donc il mettait le paquet et en fait j'étais terrorisée, je ne dormais plus la nuit à ce moment-là et en fait un jour j'ai rencontré cette personne et on s'est vu et je sais pas pourquoi je me suis confiée à lui et il m'a fait écouter le Coran. Il m'a dit moi, voilà, c'est ça que j'écoute, et il m'a demandé ce que ça me faisait parce qu'il savait que souvent les gens, même sans comprendre, ils écoutaient le Coran et ils étaient émus. Enfin, tout le monde a déjà vu des vidéos de gens qui pleurent alors qu'ils sont pas croyants, et en fait tout ce que ça m'a fait, c'est une sorte de chaleur, comme si on posait une main chaude sur mon front, comme quand notre maman, quand on est petit, nous berce et qu'elle met sa main sur notre front, comme un apaisement, en fait, une chaleur. Et je savais pas, en fait, ce que c'était. Mais ce que je sais, c'est que je me sentais vulnérable. Je ressentais la vulnérabilité dans laquelle j'étais. Mais j'étais comme réconfortée. Et quand je suis rentrée chez moi, voilà, je suis retournée dans mes nuits de peur. Et puis, je me suis dit, pourquoi j'écouterais pas ça? Et je l'ai mis en boucle toute la nuit. Enfin, j'ai mis le Coran qui tournait toute la nuit et j'ai réussi à dormir. Et là, en fait, je me suis dit, il y a quelque chose. Et là, j'ai commencé à chercher. Et en fait, ce que je voyais en cette personne, c'était justement ce qui me manquait, ce réconfort que j'arrivais pas à avoir, cette lumière. Et j'ai cherché. Je lui posais plein de questions pour être sûre que ce que je lisais, c'était pas n'importe quoi, parce que j'ai cru comprendre que l'islam, en fait, c'était très, très précis. Et ça, je ne savais pas du tout qu'une religion pouvait être précise et prouver, et c'est ça qui me manquait, en fait. C'était moi, à l'école, l'histoire, tout ça, enfin, tout ce qu'on me racontait, et j'avais l'impression que c'était n'importe quoi, qu'on me racontait que des bobards, et je le voyais, je le sentais, j'avais ce discernement. Mais du coup, comme c'était n'importe quoi, je me disais que cette vie, c'était pas sérieux, et je la prenais pas au sérieux. Mais quand tu rentres dans l'islam, là, tu rentres dans le sérieux. Là, tu vois du concret, des preuves. Et ça te remplit, ça venait combler ce besoin de stimulation de mon cerveau que j'avais en moi, et en même temps, ça comblait aussi le vide que j'avais dans mon cœur. Et je voulais aller tellement vite, je voulais y aller. Et en même temps, ça, j'avais Shaitan qui me tirait le bras comme ça et qui me disait « Non, ça va être dur, c'est une religion, il faut porter le voile, t'as plus le droit de rien faire, tu peux plus sortir, tu peux plus faire ci, tu peux plus faire ça. » Et non, je suis passée au-dessus de tout ça. Et puis petit à petit, ça m'a menée vers là et j'ai vu la lumière, comme on dit. Je suis la shahada et après j'étais partie quoi. Et là j'ai profité d'être sur la vague, je surfais et j'avais l'impression que plus rien ne pouvait m'atteindre en fait. Et même ma famille qui le prenait mal ou pas, j'étais là non, il faut que je porte le hijab, il faut que je le fasse. Et j'avais plein d'appréhensions et à chaque fois je faisais la istikhara, j'ai appris à prier, j'ai tout appris hyper vite et Allah il m'a donné un coup de boost pour que j'acquière les connaissances qu'il me fallait pour affronter tout ce que j'allais affronter. Et ouais, je suis pas invincible, mais j'ai Allah, quoi. Qu'est-ce qu'on a de mieux qu'Allah, subhanahu wa ta'ala? Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux dans ce monde. Enfin, c'est...
On va arrêter là l'interview. Écoute, tout est dit là, Masha'Allah, c'est trop beau parce que vraiment, je pense que même les personnes qui nous écouteront, en tout cas moi en t'écoutant, j'ai vraiment ce sentiment de dans le ton de ta voix, dans le rythme que ça a pris. Tu vois, il y a eu la période New Age et puis après il y a eu l'islam et on a senti que c'est pas la même chose, c'est pas la même intensité, c'est pas et j'aimerais juste qu'on revienne sur un point qui est très important, c'est que tu as dit qu'en fait l'islam a apaisé ton cœur et a nourri ton esprit. Et ça, c'est vraiment quelque chose, effectivement, quand tu te renseignes sur ta religion, ça, c'est quelque chose. Quand parfois, tu as des périodes de doute, quand Shaitan, il vient te titiller, s'il y a bien une chose qui te sauve, c'est de se dire, je suis désolée, cette religion, c'est trop la religion des gens intelligents, en fait. Dans le sens où, ça ne veut pas dire que les autres sont bêtes, hein, mais quand je dis ça, c'est que, et de toute façon, Allah, il nous le dit tout le temps, n'y a-t-il personne pour réfléchir? C'est vrai, s'il y a une religion qui te stimule, c'est pas une religion de feignant, quoi. Je suis désolée, ouais. L'islam, c'est pas une religion de feignant. Et pour en revenir, justement, à ce que disait ma collègue en disant, la religion, c'est pour les faibles d'esprit, ben moi, j'ai jamais autant pris mes responsabilités, j'ai jamais été autant au-delà de moi-même que quand j'ai emprunté un chemin religieux plus ferme. Alors, tout comme toi, je suis très, 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 très loin d'être arrivée. Hein. Des fois, j'ai l'impression d'être juste après la ligne de départ, là. Mais quand même, tu sens que tu as eu une impulsion qui t'a poussée. Et vraiment, dans les moments de doute, moi, tout comme toi, il y a vraiment cette chose-là qui me dit, mais non, quand tu vois bien que l'islam, c'est une religion qui t'aide à être plus fort dans ta tête, plus fort dans ton comportement, l'éthique que tu as au boulot, une fois que tu décides vraiment d'avoir un adab, même les personnes qui ne croient pas, ils vont savoir discerner, ça c'est un bon élément au travail. Que tu le veuilles ou pas, t'as beau dire j'aime pas l'islam, tu peux pas t'enlever de l'esprit que elle vient à l'heure, elle respecte les temps de pause, elle respecte la hiérarchie, et ça, c'est intrinsèquement lié, en tout cas pour ma part, ça a été intrinsèquement lié à ma foi que j'ai voulu élever, en fait.
T'as aussi très bien résumé ce qu'était notre religion. Machallah. Je sais pas
comment dire il est. Et bah, du coup, pour rester sur le sujet de ta conversion, j'ai deux questions qui me viennent en tête. C'est que, est-ce qu'il y a eu un moment, un wow moment, un wow effect, où tu t'es dit, ok, là, j'ai entendu un message, une aya, une preuve qui m'a fait dire, alors là, c'est cuit, faut que je me convertisse. Ou est-ce que ça a été une succession de choses? Et la deuxième chose, c'est comment ont réagi tes proches face à cette nouvelle-là? Parce qu'en fait, ton regard a changé, ta paix est revenue. Donc, comment eux, ils l'ont vécu?
Alors, ça n'a pas été une aya d'un particulier. Je sais que Ayat al-Kursi m'avait beaucoup remué. Et c'est une des premières paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'ai apprises d'ailleurs. Et en fait, c'est ce qui m'a fait aller vers l'islam, c'est la justice. Ça, j'en ai pas parlé encore, mais ça paraît évident. C'est cette recherche de justice que j'avais. Je trouvais le monde tellement injuste, les gens tellement injustes. Et quand tu lis le Qur'an al-Karim, tu vois la justice partout. Tu te rends compte qu'Allah, c'est, de toute façon, c'est le juste. C'est un de ses noms. Alors, Adèle. Et tout est justice, en fait. Tout est équilibre. Tout est, alhamdoulilah. Et c'est ça qui m'a, même pour les animaux. Moi, j'étais végétarienne. Moi, c'est très new age aussi. J'étais à fond, j'étais le cliché.
Elle a pas
quoi.
Fait les choses à moitié, exactement.
Cliché total. Et quand j'ai vu comment ils parlaient des animaux, comment ce que c'était vraiment manger halal, Parce que, enfin voilà, moi je comprenais pas grand chose, comme la plupart des gens. Hein. Ils disent halal,
bien sûr, bien sûr.
Halal, ils utilisent ce mot, mais ils savent pas de quoi ils parlent. Alors que halal, c'est pas juste pour la viande, hein, c'est une mode de vie en fait.
Exactement.
Comme le halal love.
Je n'ai pas osé faire le lien, tu vois, j'ai laissé les gens le faire.
Et, et du coup, quand j'ai vu ça par rapport aux animaux, qui moi prenaient beaucoup de place dans. J'avais beaucoup d'affection pour les animaux et. Même ça, ça a raffermi aussi mon cœur là-dedans. C'est des petites briques, en fait. C'est un puzzle que j'ai fait. Et quand,
reconstitué.
Voilà. Et quand j'ai eu les dernières pièces, en fait, et... après, ben, ça fait que grandir en moi et je pouvais plus l'arrêter. Ça prenait possession de tous mes organes. Voilà. Et puis, est-ce que ça apporte au cerveau? Mais c'est quand même, subhanallah, c'est puissant, quoi. J'ai jamais eu une aussi bonne nourriture pour mon cerveau. Et puis, quand, comme tu dis, quand j'ai un moment de faiblesse, ben, je me suis confectionné une petite bibliothèque, subhanallah. Et puis, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. En fait, rien que j'ai le Coran. Et puis après, s'il y a des choses que j'arrive pas à expliquer, parce que c'est compliqué d'expliquer le Coran et d'interpréter avec justesse. Je suis personne pour interpréter le Coran. Donc, je prends mes autres livres, des chéris qui l'ont fait, ou j'écoute des prêches ou des conférences de chéris que j'aime bien. Et à chaque fois, je trouve la réponse à ce que je cherchais. À chaque fois. Subhanallah, Allah, il nous donne toujours un indice quelque part. Quand ça va pas, moi, je prends le Coran, je l'ouvre. Je dis Bismillah, je l'ouvre à une page, comme ça. Et je lis ce qu'il y a écrit. Et à chaque fois, j'arrive à trouver la réponse à mon problème du moment. Et subhanallah, en fait, si on fait ça dans toute notre vie, on a les réponses à tout. Et puis, voilà, Inch'Allah, on reviendra vers Allah et ce sera avec une âme apaisée. Et c'est Amin. Tout ce que je nous souhaite à toute la Oumma.
Amin, amin. Que d'amour dans cet épisode, c'est magnifique.
Après, la deuxième partie de ta question, c'était à propos de la famille.
Oui, bah oui, parce qu'en fait, justement, il y a tellement d'amour dans ce que tu évoques. Est-ce que cet amour-là, il a pu atteindre les cœurs de tes proches ou est-ce que, comme dans l'aïa qu'on a cité, les cœurs étaient trop aveugles pour pouvoir recevoir cette dose d'amour?
Alors, les guides, j'ai toujours cet espoir au fond de moi. Hein.
Bien
sûr. Ça s'arrêtera jamais jusqu'à la fin. Et voilà, ben, malheureusement pour moi, pour l'instant, enfin non, heureusement pour moi, alhamdoulilah, là, voilà. Là, un petit exemple de ce qu'on fait tous, c'est que après quand on réalise, non, alhamdoulilah pour tout. Et ça a été une grosse épreuve pour moi parce que j'ai dû les affronter et ça c'est quelque chose que je ne faisais jamais. Moi, j'étais vraiment ben, celle qui s'adapte à tout le monde et qui voilà, qui fait bonne figure devant tout le monde, qui change un peu de personnalité en fonction des gens avec qui elle est pour plaire à tout le monde. Et ben, là, je suis rentrée dans quelque chose où c'est la façon de s'affirmer la plus forte qui avait, vu que c'est par Allah. Il n'y a pas plus fort et plus puissant que ça. Donc, forcément, ben, ça impressionne et ça fait peur et ça fait titiller tous les chayatines et les cœurs malades, ça les fait un peu disjoncter. Donc, il y a eu des réactions diverses et variées. Il y a eu beaucoup de craintes. Il y a eu de la crainte injustifiée, des stéréotypes qui sont ressortis, tout plein de choses. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites en face, mais qu'on m'a rapportées par derrière. Est-ce que c'était utile de me les rapporter? Et au final, j'ai voulu être le rappel et leur montrer, mais en fait, pour l'instant, ça n'a pas encore fonctionné. Et moi, tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est m'éloigner d'eux parce que je ne peux pas rester en... Faut rester avec les gens qui se prosternent devant Allah. Les gens qui ont l'humilité de se prosterner devant Allah et les gens qui ont une pointe d'arrogance dans leur cœur et d'orgueil, il faut s'en éloigner parce que c'est le premier attribut d'Iblis, c'est l'orgueil. Et Allah, il a dit dans le Coran que les gens qui ont ne serait-ce qu'une... Je sais plus le mot qu'il utilise, mais...
C'est une pointe ou si c'est...
Ouais, un atome, non, je sais plus.
Un atome. Peut-être un atome.
En tout cas, un tout petit peu d'arrogance dans son cœur, et ben voilà, le paradis, c'est pas pour lui, hein. C'est ça l'idée. Et donc, s'il faut pas s'approcher, enfin, moi, je pense à mon niveau que je dois rester en contact avec eux parce que voilà, je veux, salam alaikum, ça s'arrête là, mais je veux pas les côtoyer parce que ils peuvent me faire trop de mal et j'ai pas envie de ça aujourd'hui, j'ai envie juste de, je préfère être avec Allah. Et voilà, mon mari, ma fille, et puis si je peux avoir des frères et des sœurs autour de moi, alhamdoulilah, mais c'est tout ce que je demande, c'est de rester avec ceux qui se prosternent devant Allah, ceux qui sont humbles, ceux qui se remettent en question, et qui sont pas parfaits comme nous, mais qui font tout pour se rapprocher d'Allah et qu'on puisse se faire des rappels entre nous, c'est le plus important parce que on est imparfait, Allah nous a créés comme ça. Mais si on est qu'avec des gens, même peu de gens qui sont là juste pour se rappeler que il veut pour son frère ce qu'il veut pour lui aussi, parce que on n'est pas croyant, celui qui ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Et ça, c'est la plus grande preuve d'amour de l'islam qu'on peut se faire dans la Oumma, c'est de se faire du rappel. Mmh. Et d'ailleurs, il y a un autre hadith, ça me fait penser, que je voulais partager sur ce podcast. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai appris la doura pour répondre à « Ohibuka fillah, ohibuki fillah », quand on dit « je t'aime en Allah ». Et en fait, il y a un homme qui est venu voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « j'aime cet homme ». Et le prophète, il lui dit, mais tu lui as dit? Et l'homme, il lui dit, non, je lui ai pas dit. Il dit, mais vas-y, va lui dire. Et en fait, l'homme, il court pour attraper cet homme qu'il aimait et il lui dit, oh, ribouka filla. Et l'homme lui répond, ahabbakalladi ahbabtanilla. C'est que celui en qui tu m'aimes, t'aime. Et j'en ai des frissons, là, rien que de le dire. Parce qu'en fait, ça va au-delà de notre corps physique. C'est notre âme qui parle. Et déjà, quand on dit, oh, ribouka filla, à quelqu'un, au ribouki filla pour une femme, ça veut dire que on aime en Allah, on oublie la dunya, on est dans la akhira en fait. Je t'aime en Allah, ça veut dire que c'est la lumière d'Allah que j'aime, que je vois en toi que j'aime. Et j'espère que toi tu m'aimes pareil. C'est ça en gros. Et la réponse, elle est encore plus puissante parce que la personne, elle la prend même pas pour elle. Elle va au-delà de ça, elle dit, mais que celui en qui tu m'aimes t'aime, ça veut dire qu'elle souhaite juste pour lui que Allah l'aime aussi. Et lui dit même pas, moi aussi je t'aime, quoi. Et là, subhanallah, il n'y a pas plus puissant et on peut même pas toucher du doigt cet amour, quoi. C'est là qu'on voit que l'amour d'Allah, il nous donne.
Il est puissant. Voilà. En fait, j'ai aimé le fait que tu dises, la personne répond même pas, je t'aime aussi. Genre, en fait, mon amour, c'est pas suffisant, en fait. Si je t'aime vraiment, c'est pas mon amour que je te souhaite, c'est l'amour d'Allah.
C'est ça.
Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ça?
C'est ça.
C'est incroyable. C'est très, très beau. Franchement, je discuterai encore des heures avec toi de ce sujet, mais j'ai vraiment envie qu'on s'arrête justement sur ça, sur l'amour d'Allah, et qu'on clôture là-dessus. Est-ce que tu as un message, un conseil, une manière de procéder qui te permet de préserver l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur et que tu souhaites partager aux personnes qui nous écoutent?
S'il fallait qu'il y ait qu'une chose, je pense qu'en écoutant tout ce podcast, j'ai donné tout ce que j'avais dans mon cœur. Donc, je pense juste...
On t'en remercie. Hein.
Oui.
Barakallahu fik.
Amin. Mais vraiment, cultiver votre jardin. Cultivons notre jardin. Et pas seulement le nôtre, le jardin du voisin, le jardin de son frère, le jardin de sa maman, le jardin de son père. Je vous passez par là, hop, jette une petite graine, un petit verre d'eau, même sans rien lui dire. Fais ça. Et puis tu t'en vas, salam alaikum. Juste voilà, cultiver le jardin de l'autre et en prendre soin et aimer le jardin de l'autre comme on aime le sien. Et quand on regarde le jardin de l'autre, juste se rappeler que il y a de la place pour tout le monde au paradis. Il n'y a pas à envier les autres. On peut tous, si on le veut et qu'on va la chercher cette place, on peut tous être voisins avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il faut le vouloir, il faut y croire, il faut le demander à Allah du plus profond de notre cœur. Mais si Allah le veut, avec toute sa rahma qui est infinie, qu'on peut pas mesurer, on peut être voisin avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez? Déjà, rien que le rencontrer, ce serait fou, mais être voisin avec lui pour l'éternité et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et lui parler. Faut rester sur ça, en fait. C'est notre objectif final, il est immense. Et à côté de ça, Shaitan et son armée, mais vous faites pas le poids, rhabillez-vous, c'est bon. Et je te dis ça avec les larmes aux yeux parce que c'est mon cœur qui parle. Alhamdulillah, qu'Allah m'ait guidé et qu'il nous préserve tous, Amin. Vraiment.
Amin. J'ai les chills là, j'ai les frissons. on va rendre l'antenne ou je sais pas, on va s'arrêter là parce que je me dis que il faut qu'on reste sur cette beauté là. J'ai vraiment envie de garder, de suspendre cet enregistrement, sur ces magnifiques propos, sur ces magnifiques invocations. J'implore à la Subhanahu wa Ta'ala qu'il bénisse toutes les personnes qui écouteront cet enregistrement, qu'à la Subhanahu wa Ta'ala préserve ta famille, qu'il t'aime de son amour inconditionnel comme lui seul peut aimer, et on espère inchallah que son amour rejaillira dans nos comportements, et que nos comportements et notre croyance inchallah nous permettra d'obtenir son amour, sa satisfaction, et qu'on pourra un jour le rencontrer dans les meilleures circonstances qui soient. Et je nous souhaite à tous et à toutes d'être voisins dans le Jannatul Firdaws inchallah.
Amin.
Merci beaucoup Latifa pour ton temps, pour ta douceur, pour ton retour d'expérience. C'était riche, c'était très très beau. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose?
Alhamdulillah, c'est tout. Alhamdulillah tout le temps, pour tout et en toutes circonstances. Jazakallahu khayran à toi.
Et merci beaucoup Latifa. Prends bien soin de toi. Amin ya Rabbi. Prends bien soin de toi. Merci infiniment pour ton temps, tes invocations. On remercie ta fille d'avoir participé aussi et de nous avoir donné de son temps et de son amour aussi. Elle a compté. Masha'Allah. Prends bien soin de toi, Latifa.
Et toi aussi.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez 1 minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.